Vous écoutez
RMC.
RMC.
Non, là-dessus, vous êtes en retard et vous avez le pied au niveau de la chaussure. Je n'en veux plus. C'est clair? Vous voulez un soin ou ça va aller? Vous voulez un soin?
Condamné. Oh là 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 là. C'est plus une pression, là, je suis déjà au pilotis.
Je vous ai dit, je vais pas me flageoler tout seul.
C'est vraiment un casse-pipe chinois.
Vous voulez un soin ou ça va aller?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct sur RMC jusqu'à minuit, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en podcast. La compo du soir, Lionel Charbonnier, salut Lionel.
Salut Thibaut, salut à tous.
Et Kevin Diaz, salut Kevin. Ça va les gars, vous êtes en forme?
Ça va très bien.
Tu vas on voir. Est redescendu.
Quelle semaine.
Ah ouais, de notre semaine.
Quelle
magnifique.
Semaine.
Et ce qui est magnifique, c'est que cette semaine, presque parfaite pour nos clubs européens, enfin non, pas presque parfaite, mais très belle en tout cas déjà, ça enchaîne avec la Ligue 1, le retour et la 30e journée.
Un
là,
match
on est vraiment dans le
sprint
final. Ah bon qui a débuté ce soir. Donc avec la victoire de Nice, 3-0 face à Lorient. Dans un instant, on débriefe cette rencontre avec vous, 32-16, mais Niçois, mais l'Orienté à Dri vous attend au standard. Dans quelques minutes, l'OM qualifié hier. L'OM doit-il tout miser sur la Coupe d'Europe? Il y a les blessés, il y a les fatigués, un groupe amoindri, une position éloignée en championnat. Est-ce qu'il faut faire tapis sur l'Europe? Là aussi, on vous attend au 32-16 supporters marseillais. Et puis, il y aura un avis tranché concernant l'OM de Lionel. Est-ce que c'est bon, Lionel, si je résume en disant que Mumbanya a fait un bon match hier? A été utile pour l'OM,
oui,
plutôt.
A été utile, okay, pour l'OM.
Et puis on parlera calendrier avec cette Coupe d'Europe. La Ligue de football professionnel a officiellement décalé les matchs de l'OM et du PSG entre leur aller et retour de Coupe d'Europe, ce qui a des conséquences pour d'autres clubs, bien évidemment. Est-ce que la Ligue a raison de tenter de favoriser les demi-finalistes de Coupe d'Europe? Là aussi, on en débat avec vous au 32-16, supporters de ces deux clubs-là, ou bien d'autres clubs. On écoutera d'autres acteurs, les entraîneurs ont été interrogés là-dessus aujourd'hui en conférence de presse. Éric Roy notamment n'est pas très content, Pierre Sage est mitigé. On vous attend sur tous ces sujets au 32-16. Il y aura le meilleur de l'actu du jour en fin d'émission. On est sur YouTube évidemment, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée foot. Et si vous préférez écrire, donc vous pouvez y aller dans le chat ou sur le direct studio. Les applis RMC Sport. Message de François, là que je lis, supporter niçois en Nouvelle-Calédonie. Je retrouve un bon gym ce soir. Toujours autant de difficultés dans la construction et la finition, mais un niveau d'intensité retrouvé. N'hésitez pas à venir nous écrire. Et puis juste avant les trois points, les résultats du soir. On joue également en Allemagne avec un événement. L'Eintracht Francfort a battu Augsbourg 3-1. Et avec un buteur. Non. Ah. Mais un, c'est déjà bien. Ekitike qui a marqué ce soir son premier but à Francfort, son premier but depuis 2023, janvier 2023. À une époque, il jouait encore un tout petit peu avec le Paris Saint-Germain. En Espagne, un partout entre l'Athletic Bilbao et Grenade. Et puis ça vient de se finir en Italie, 2-2 finalement entre Cagliari et la Juve. La Juve était menée 2-0. 22h59, vous êtes sur RMC. Merci de nous avoir choisis. Place tout de suite au plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, tes trois points pour commencer.
Écoute, le premier point, c'est quand même le match du soir avec cette victoire, j'allais dire belle victoire, en tout cas très importante victoire des Aiglons. L'OGC Nice qui reprend sa marche en avant, qu'ils avaient quand même bien stoppé depuis quelques temps. En deux, je vais quand même revenir sur cette semaine extraordinaire avec chronologiquement le match de Lille. Et j'ai entendu beaucoup de commentaires frustrés de supporters ou d'observateurs que je peux comprendre. Mais je suis désolé, pour moi, Emiliano Martinez, c'est aussi le football que j'aime. C'est le football de personnalité, le football qui est capable de rentrer dans la tête d'un adversaire, d'un public. Et c'est un gars tout simplement qui est efficace en plus dans son chambrage et dans sa provocation, parce que c'est des provocations et des chambrages qui sont calculés et plutôt maîtrisés.
Et maîtrisés.
Et en trois, c'est l'Olympique de Marseille qui va se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Honnêtement, avec cet effectif, avec ce 11 pour finir le match, avec des joueurs dont on n'a jamais entendu parler quasiment, même s'il y a des jeunes, et tant mieux, mais c'est quand même le football reste quand même le sport pour moi le plus imprévisible possible.
Lionel, tes trois points.
Nice l'emporte logiquement, sans faire d'étincelles, une belle prestation pendant 40 minutes, puis après plus rien, de la 20e à la 60e. Et puis voilà, avec deux buts, un but à la 22e, un but à la 53e. Bon, je les ai trouvés très émoussés quand même. Ont-ils préparé durant ces 15 derniers jours là cette série de matchs qui les attend? On verra. Ensuite, Lorient, deuxième point. Lorient me fait peur. C'est certainement l'un de leurs plus mauvais matchs à l'extérieur depuis longtemps. Là, à ce niveau-là, Lorient, ça fait longtemps que je ne les avais pas vus. Je ne parle même pas au niveau football, mais au niveau des intentions. Et puis, mon troisième point sera, le football, c'est un sport collectif qui ne demande pas que des joueurs avec des statistiques individuelles. Il y a des joueurs aussi qui peuvent avoir des stats collectives. Et je vais parler de Mbanya.
Ok. 23h01, Nice et ce soir reste cinquième après sa victoire, 47 points. Nice revient provisoirement à 2 points du LOSC et prend surtout 4 points d'avance sur Lens. Donc les Niçois ont un petit matelas. Et dans le même temps, Lorient recule avec cette défaite. Ils étaient 16e barragiste avec le même nombre de points que le FC Metz. Mais en encaissant cette défaite 3-0, le goal average devient désormais meilleur pour Metz. Et donc Lorient est 17e avec 26 points, 4 points de mieux que Clermont. Et 2 points de retard sur Le Havre, le premier non relégable. Kevin, dans tes 3 points, tu dis belle victoire niçoise avant d'un peu de te reprendre. Bon, Nice gagne 3-0, est-ce que c'est vraiment une belle victoire? Ça n'a pas été en maîtrise, ça n'a pas été. Alors, c'est pas un 3-0 flamboyant non plus. Hein, faut...
Non, mais après. Quand t'es dans cette dynamique quand même compliquée depuis maintenant, je vais même pas parler en semaine, je vais parler presque en mois, pour les Niçois, quand tu gagnes 3-0, même si c'est contre une équipe de Lorient qui est en difficulté en championnat, ça reste une belle victoire, en tout cas pour l'intérieur, pour les supporters. Ils vont quand même pousser un grand ouf et ça va leur faire. Et ça va leur faire vraiment du bien parce que cette équipe de Nice, elle a vraiment eu du mal à démarrer.
Les 20 premières minutes étaient pas bonnes. Hein.
J'allais parler de le début d'année 2024, mais aussi les 20 premières minutes de ce match. Et ensuite, marquer 3 buts, même si le dernier arrive en toute fin de match. Non, c'est quand même un grand ouf de soulagement et une grosse victoire pour l'OGC Nice, même si c'est vrai que dans le jeu, c'est pas encore le Farioli Ball.
Ou c'est peut-être le Farioli Ball, on ne sait pas.
C'est peut-être.
En tout cas, c'est la première victoire à domicile depuis janvier pour les Niçois. C'est vrai qu'ils ont traversé une sale période. La deuxième victoire sur les 10 derniers matchs, simplement. Lionel.
Oui, Kevin a tout dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Moi, je suis.
Mais en fait, les meilleurs Niçois ce soir, parce que défensivement, bien sûr, ça a été, les Lorientais ont été peu dangereux. Les attaquants n'ont pas fait un super match. Aucun des attaquants.
J'ai bien aimé Kefren Thuram.
C'est ce que j'allais dire. Les meilleurs, c'était les milieux. Gros match de Kefren Thuram. Match de Morgan Sanson aussi. Ouais. Et vraiment, les deux relayeurs, en fait, c'est eux qui ont réussi à amener le danger tout le temps.
Ouais, exactement. Mais bien aidé par le milieu lorientais qui jouait beaucoup trop bas à mon goût. Ils venaient tous s'amasser pour protéger l'axe et notamment devant Terrain Moffi, alors que ça ne servait à rien. Donc ça a donné beaucoup de liberté à Sanson et à Kefren. J'attends. Moi, ce qui m'interroge quand même, je m'interroge un petit peu sur l'état physique de ces Niçois, parce qu'ils ont eu du mal. On a vu Dante qui s'est tiré beaucoup. On a vu des joueurs qui n'avaient plus de jus en fin de match. Et maintenant, peut-être que Farioli a mis une petite dose d'endurance. Tu sais, comme on fait souvent, Kevin, quand t'as cette série de matchs qui arrive là, parce que y a une série de matchs quand même incroyable. Ce match était important pour les Niçois, cette victoire, parce qu'après tu vas à Marseille, tu vas à Strasbourg, tu reçois le PSG et tu vas au Havre pour finir. Non, tu reçois le Havre pour finir à Lille. Donc attention quand même, cette victoire était importante. Et donc peut-être que cette préparation durant ces 15 derniers jours a été faite qu'aujourd'hui, ils ont eu les jambes lourdes, ils n'arrivaient pas, ils ont eu 40 minutes où ils arrivaient à s'en sortir, à mettre du rythme, mais ensuite ça a vraiment baissé. À voir pour le prochain match, est-ce qu'ils vont monter en progression comme ça dans le rythme et le tenir plus longtemps.
Est-ce que tu comprends, Thibaut, parce que je sais que souvent on a ce genre de discussion, mais est-ce que tu comprends quand je te dis que pour l'intérieur d'un club, c'est-à-dire pour les joueurs, le staff, voire même la direction et jusqu'aux supporters, il y a des victoires qui sont ultra importantes, qui peuvent être des belles victoires dans le contexte, mais que nous, de l'extérieur, quand tu regardes le match comme ça, de but en blanc, ok, tu vois 3 buts, mais c'est pas dingue.
Là, on est d'accord, c'est la définition du match de ce soir.
C'est la double lecture. L'intérieur, c'est grosse victoire. Oui. De l'extérieur, c'est faut enchaîner, quoi.
On est vraiment sur ce.
On est sur
ce match-là. Bon, les Niçois, je faisais un point classement tout à l'heure. On en parlait avant le match avec Roland. il y a eu ce début d'année un peu cata. On a du mal à les situer finalement maintenant, ces Niçois.
Mais ils avaient eux aussi du mal à se situer, je pense.
Et du coup, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on croit encore à la Ligue des Champions pour cette équipe-là? Je disais qu'il est revenu à 2 points de la 4e place. Ou est-ce qu'il faut plutôt regarder derrière? Est-ce que comment vous...
Non, faut regarder devant.
Ouais.
Non, c'est comme ça. Tu viens de gagner 3-0, faut regarder devant. Tu sais que tu vas jouer.
Même si devant t'as Lille, Monaco qui sont en grande forme et Brest aussi.
Ouais. Non, mais quand je dis faut regarder devant, faut regarder tes propres prestations, jouer les matchs bien évidemment pour les pour aller chercher ces places qualificatives. T'as l'OM, tu sais que tu vas jouer l'OM, un OM fatigué qui n'a presque plus d'effectifs. Enfin, je sais pas comment ils font là, c'est des miracles. Donc ensuite t'as le PSG qui devrait aussi à ce moment. Ah non, le PSG va être le match va être
justement
décalé.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. Le mais match c'est encore un match décalé pour Nice qui jouera.
Peut-être que tu vas
ce match-là
jouer
du PSG entre les deux
juste
dernières journées de Ligue 1. Voilà, exactement. En milieu de semaine, avant le dernier match de la saison.
Et la finale, elle est quand?
Les deux dernières journées de Ligue 1?
Oui. Okay.
Et la finale, elle est quand? Si jamais le PSG va en finale,
c'est premier juin.
De Ligue des Champions,
c'est début juin. Premier juin. Ouais.
Premier juin.
C'est tard.
Ouais, exactement.
Donc non, faut regarder devant. Faut okay. Bien évidemment, tu viens de gagner 3-0. Heureusement que tu regardes devant.
Oui, bah oui.
23h07, ouvrons le dossier Lorientais. Je disais, soirée catastrophique pour les Lorientais, battus 3-0, qui reculent même, qui font l'exploit de reculer au classement alors que personne d'autre ne jouait. Désormais 17e et premier relégable. Clément nous appelle au 32-16, supporter Lorientais. Salut Clément, bienvenue dans l'After.
Bonsoir les gars, merci de m'accueillir.
Salut Clément. Avec plaisir. Clément, Lionel parlait du pire match de Lorient à l'extérieur depuis longtemps. Est-ce que tu partages son point de vue?
Oh bah clairement oui, il y avait c'est le néant parce que on peut même pas ressortir un joueur aujourd'hui du match hormis Ivo Mvogo, c'est d'ailleurs le seul Lorientais qui fait sa saison. Sinon après oui, il y a rien eu ce soir, mais ce qui est le plus dramatique, c'est que ça fait depuis le début de saison que ça dure. On a un coach qui est toujours en place et qui doit sa carrière ou son début de carrière à 3 personnes qui sont Loïc Ferry pour l'avoir nommé quand il était entraîneur en National 2. Pour lui avoir maintenu sa confiance cet hiver, parce que s'il fait ça à Nantes ou dans notre club, il se serait fait virer au moins 3-4 fois. Et les deux autres personnes, c'est Terem Moffi et Dango Ouattara.
Ah, je croyais que tu allais parler de Thibaut Leplat.
Et ben, on peut le mettre en quatrième aussi. Thibaut, je lui en veux un peu parce que quand on connaissait pas.
Mais t'es essoufflé ou quoi là?
Je suis en train de marcher, je suis un peu énervé. Je suis.
Mais tu marches, pourquoi tu marches? Qu'est-ce que tu fais? Tu marches où avant 3h08?
Quand t'es énervé, t'en as qui marchent comme ça.
Ah ouais, là j'étais dans la voiture, j'arrive pas à tenir, j'ai vu le match. J'en pouvais plus, mais voilà, oui, Thibaut Leplat aussi peut à sa part. Parce que moi, quand on connaissait pas trop Régis Lebris et qu'il nous parlait de Régis Lebris, moi je me suis dit, oula, c'est bon, on va être en Coupe d'Europe. Parce que Thibaut a parlé de Coupe d'Europe aussi en début de saison pour l'Orient, donc ça aussi il faut en parler. On en est quand même très loin. Donc,
Et toi, en début de saison, t'espérais quoi, justement?
Qu'est-ce que j'espérais? La Coupe d'Europe, honnêtement, non, j'y croyais pas du tout, mais je pensais qu'au vu de l'effectif, parce qu'aussi, il faut savoir que tout l'effectif qu'a fait Régis Debris, il a quand même, au total, on est sur plus de 40 millions investis. Quand on voit un garçon comme Formos Mendy, qui est titulaire en défense, c'est 7,5 millions acheté à Amiens. D'une, c'est très cher, et de deux, il est nul. On a Jean-Victor Makengo, c'est acheté l'hiver dernier, 12 millions d'euros. Pareil, recrue de Régis Debris, il est nul, il joue même plus. C'est quand même Régis Debris, faut ouvrir le dossier, faut.
Bon, alors écoute Clément, tu l'as ouvert. Kevin, Lionel, est-ce que sur le comment vous vous positionnez sur le dossier Lebris?
Moi je le trouve je trouve Clément, je peux comprendre son agacement, mais je le trouve très dur avec Régis Lebris quand même. Bien sûr que cette saison c'est un peu plus compliqué, mais à partir du moment où tu as parlé de Terem Moffi, quand il a perdu l'année dernière 2-3 de ses meilleurs joueurs au fil de la saison, c'est pas un faiseur de miracles non plus, hein. Aujourd'hui à Lorient, t'as pas non plus un effectif dingue, t'as un entraîneur qui essaye certes de recoller les morceaux après les divers départs, c'est jamais facile dans un club comme ça, et aujourd'hui Lorient malheureusement est en difficulté, mais ils sont pas non plus complètement décrochés. Ce soir ils ont raté leur match, c'est une certitude. Maintenant, il reste encore quelques matchs quand même pour arriver à se sauver.
Je suis d'accord avec toi, moi, Kevin. Le seul truc que je peux me permettre, c'est que Dango Ouattara et Terem Moffi sont partis il y a plus d'un an aujourd'hui. C'est un peu comme mon ex. Moi, si ça fait plus d'un an qu'elle est partie et qu'elle est heureuse avec quelqu'un d'autre, et ben, il y a un moment, je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre pour essayer de compenser ça. Et comme je dis, le recrutement, c'est Régis Lebris qui l'a fait, sans forcément les remplacer.
Si je te parle du Racing Club de Lens et de Seko Fofana, tu peux accepter la comparaison?
Oui, je suis d'accord. Mais...
Attention, le football, hein, tu sais, deux éléments, certes, c'est un sport collectif. Bien sûr, il y a 11, 22, 25 joueurs dans un effectif, des fois plus. Mais un ou deux éléments peuvent te faire une différence énormissime. Surtout quand ça clique bien un entraîneur. Parce que tu as dit que c'est comme une ex qui s'en va vivre avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr que Mofi vit mieux avec Nice qu'il était avec Lorient. En tout cas, ouais, footballistiquement.
Mais je ne pense pas qu'il regrette. Je pense pas qu'il
bah, il ne regrette pas sur le compte en banque, mais il regrette peut-être sur le sportif.
Ouais, il va rester en Ligue 1 aussi, il jouera peut-être l'Europe. Donc ouais.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Il était quand même meilleur à Lorient. Quoi.
Mm. Ouais, mais après, Terem Mofi, on l'a remplacé par Bamba Dieng. L'idée, elle n'est pas bonne non plus.
Lionel, c'est ton avis sur Régis Lebris, Lionel.
Oui, je suis d'accord avec Kevin. Je pense que c'est compliqué. Clément est un petit peu dur. Je le comprends parce que voilà, il faut trouver un bouc émissaire. Mais c'est pas seulement lui. C'est aussi cet effectif, ces joueurs qui sont partis et qui n'ont jamais été remplacés. Ça, c'est une première chose. Et puis après aussi, il y a eu un phénomène. Et il y a un phénomène qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que t'as eu Bamba. Tu t'es dit ça y est, on l'a recruté, la très bonne pioche, tout va bien. Seulement, ça reste un gamin,
un gamin qui joue. Ce soir, le pauvre, il fait un match catastrophique.
Hein. Il fait un match catastrophique, mais comment tu veux demander à un gamin de 20 ans dans des conditions comme ça de jouer sous pression? Il n'a jamais connu ça. Pour vivre ce que sont en train de vivre les Lorientais, il faut avoir l'expérience. Là, tu t'en remets à un gamin qui jouait au départ avec l'insouciance et à qui tout réussissait. Là, maintenant, tout d'un coup, t'aimerais bien qu'il continue sur la même cadence que ce qu'il nous
après,
a fait
le Brice au mois de janvier.
Mais bien sûr, le Brice Lemay, mais t'as qui derrière?
Mais oui.
Après, t'as Croupi.
T'as Croupi et t'as Bamba Dieng.
Ouais. Quand tu mets Croupi, quand ça sent le moisi, ça va pas.
Bon, Clément, je te sens, avec peu d'espoir. Est-ce que.
Résigné.
Voilà.
Merci, non, mais ça fait peur. Moi, là où je comprends Clément, quand même, c'est que lorsque tu regardes, ne serait-ce que le match de ce soir, peut-être qu'il faudra l'oublier. Peut-être que c'est le match le plus catastrophique qu'ils ont fait depuis très longtemps, sûrement même. Et le plus difficile maintenant, ça va être de l'oublier. Ça, c'est la première chose. Mais quand tu regardes le jeu des adversaires directs de Lorient,
c'est mieux. Mais c'est mieux.
Même Clermont, c'est mieux. Même Clermont, c'est mieux que ce que j'ai vu ce soir.
Pas tout le temps, comme OK ce soir, mais
actuellement, oui. dans la période actuelle.
Clermont, ça a été compliqué aussi quand même.
Là, actuellement, je trouve beaucoup mieux. Là.
Bon, et puis, il y a un calendrier en plus de dingue qui arrive pour Lorient. Il y a le match en retard justement face au Paris Saint-Germain mercredi.
Paris, ouais.
Ouais, ensuite Toulouse, Lens, Marseille et Clermont qui, on l'espère pour l'Orientais, sera peut-être décisif. Ça voudrait dire que Lorient n'est pas encore relégué. Merci Clément en tout cas d'avoir été là.
Eh ben, merci de m'avoir accueilli. Moi je vais aller poser un cierge pour le maintien et puis j'espère vous rappeler bientôt. Et puis allez Lorient et vive Régis Lebris, c'est le meilleur.
Salut Clément, à bientôt. Ciao. Bye bye.
Tiens, je voudrais juste faire comme ça.
Qu'on prenne Philippe qui nous appelle sur le gong, supporter niçois. Salut Philippe.
On n'avait pas de niçois.
Salut Philippe. Juste après, et c'est lié à Lorient. C'est-à-dire que toi, Philippe, tu t'enflammes pas parce que Lorient, t'as trouvé ça faible, c'est ça?
Bah oui, il a raison.
Regardez, tous les buts qu'on marque ce soir, c'est venu d'une faute de relance de la part des défenseurs.
Exactement.
De Lorient. Et y a, dans la construction, honnêtement, moi je me suis pas régalé. J'ai pas vu des séquences de jeu qui ont changé par rapport à l'accoutumée. C'est toujours le même stéréotype de jeu de Nice. Et je pense que si tu tombes sur une équipe qui est plus structurée, qui a moins de déchets, tu gagnes pas 3-0 ce soir. Parce qu'en fait, les buts, et je crache pas sur mon équipe, c'est mon équipe de cœur, mais il faut être réaliste et pragmatique. Ce soir, si t'as pas une équipe faible derrière, autant tu fais comme d'habitude, tu fais 0-0 ou tu es capable de perdre le match à domicile. C'est la faiblesse de Lorient ce soir, elle a été affligeante. J'ai rarement vu une équipe faire cadeau d'un match comme ça. Et surtout, encore une fois, Nice dans le jeu, hein, je parle vraiment dans la construction du jeu, dans la phase d'attaque. Ça joue toujours à la baballe, il n'y a pas de verticalité, c'est faible. Je veux dire, putain, tu joues contre une équipe qui a peur, qui est pas bien. Tente, fais des triangles, des redoublements, je sais pas.
Notamment sur les côtés, quand tu joues face à un bloc regroupé, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, Philippe. Quand tu joues face à un bloc regroupé comme ça, que tu sais que tu as Mofi qui est tout seul dans l'axe, encadré de 6 Lorientais, ça veut dire que sur les côtés, il y a de l'espace.
passent obligatoirement parce qu'ils peuvent pas être partout. Hein. T'en as deux de chaque côté et donc tu peux être en supériorité sur les côtés. On n'a jamais vu de gens en triangle et pour moi il y a des principes de jeu qui sont aujourd'hui mis à l'intérieur des circuits préférentiels qui ne vont pas dans cette équipe et ils peuvent s'améliorer ces Nice.
Tiens, juste pour terminer, Philippe, la question que je posais tout à l'heure à Kevin et Lionel, c'est quoi l'objectif pour Nice maintenant, cinquième? Est-ce que tu regardes un peu plus haut? Tu dis que finalement cinquième, t'es à ta place.
Comme je t'ai dit, en étant vraiment honnête et pragmatique, les quatre équipes qui sont devant toi, dans le jeu, il n'y a pas match. Tu ne peux pas comparer Nice avec Monaco, Lille, même Brest. Ça me fait vraiment le cœur de dire Brest. J'ai l'impression qu'on parle du Real Madrid quand on parle de Brest, mais Brest, ça joue au football. Hein, franchement,
c'est le Brésil.
Dans le jeu, c'est vraiment beau. Quoi. C'est pas dégueulasse. Et Paris, c'est notre planète, on n'en parle pas. Mais non, moi, je pense que si tu arrives à garder cette cinquième place, honnêtement, avec la phase retour qu'on a faite, mais ça serait miraculeux. Mais vraiment, et honnêtement, tout à l'heure, j'ai écouté Clément, je pense qu'il a raison sur un fait. Malheureusement, on a un entraîneur qui a un principe de jeu qui est propre à lui et qui veut appliquer, mais je pense que par rapport à son principe de jeu, il n'a pas les joueurs adaptés. Un mec comme Mofi, je pense que tu as raison, Kevin, je sais pas si c'est Kevin ou Lionel, mais il s'est éclaté plus sûrement à Lorient qu'à Nice. Tu le vois, le gars, il se fait chier à Nice. À chaque fois qu'il finit un match ou qu'il sort, il a la tête basse, il n'a pas de ballon en profondeur. C'est-à-dire que tu as acheté un gars 30 millions d'euros et tu n'exploites en rien son potentiel. C'est-à-dire que tu le fais jouer dans un système où le gars est en train de l'éteindre.
Ok, Philippe, donc, merci en tout cas d'avoir été là, Philippe.
Merci, passe une bonne soirée.
Toi aussi, un bon week-end et à très vite. Nice qui jouera son premier match en milieu de semaine prochaine, le match en retard justement contre Marseille. Marseille dont on parle dans un instant dans l'after. L'OM doit-il tout miser sur la Coupe d'Europe? 9e simplement de Ligue 1, un peu décroché, un effectif diminué. Je vous attends au 32-16, mais Marseillais, c'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Lionel Charbonnier et Kevin Diaz. Courte pause, dans 45 secondes, on est de retour, promis.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
J'avais dit 45 secondes ou j'avais pas dit 45 secondes? J'avais dit 45 secondes. Lionel Charbonnier.
46 secondes.
Le temps du jingle. Et Kevin Diaz. On est en direct jusqu'à minuit. Ça aussi, je vous l'annonce. C'est comme tous les soirs. En direct également sur vidéo, en vidéo sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot. C'est un message d'Alexandre qui est supporter niçois, a mis l'orienté pour perdre 3-0 contre nous. Je peux vous dire que vous êtes définitivement foutus. Gardez quand même la foi et l'orienté. 23h19, dans une dizaine de minutes, débat autour de la Ligue qui, ce soir, a reporté les matchs de l'OM et du Paris Saint-Germain le week-end entre l'aller et le retour de Coupe d'Europe. Est-ce que la Ligue a raison de bousculer son calendrier pour tenter de favoriser nos clubs français? On en débat au 32-16, mais d'abord l'OM. L'Olympique de Marseille qualifié hier pour les demi-finales de Ligue Europa, ce sera l'Atalanta-Bergame, 3 matchs potentiellement du titre et donc d'une qualification en Ligue des Champions, parce que le vainqueur de la Ligue Europa sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Marseille, on l'a vu hier, qui a terminé sur les rotules, blessé, qui a fait jouer des minots. 9e en Ligue 1, à 4 points de la 6e place. Bref, Marseille doit-il tout miser sur la Coupe d'Europe? On en débat avec vous tous au 32-16. Et je voudrais pour commencer qu'on écoute Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM, qui était l'invité exceptionnel de Rotten sans flamme ce soir. Est-ce que l'OM peut jouer à fond sur les deux tableaux?
Quand t'es à l'Olympique de Marseille, tu peux pas faire de compromis. Aujourd'hui, même si les joueurs ils sont comptés, hein, je te dis la vérité, j'ai regardé encore tout à l'heure la salle de son. Hein. C'est pas évident. On préfère en rire, mais malheureusement, voilà, c'est la période. Ça fait partie. Voilà, des fois il y a des saisons un peu plus compliquées que d'autres. Cette saison, pour le coup, on n'a pas été chanceux avec tout ça. Mais à Marseille, tu peux pas faire de compromis. Tu peux pas dire je fais l'impasse sur le championnat.
Non, mais peut-être faire reposer des joueurs en vue justement des échéances européennes à venir, qui sont quand même très importantes pour
eux. Mais ça voudrait dire mettre de côté le championnat. Sauf non, que moi, le championnat, c'est mon pain quotidien.
Vous avez le choix aujourd'hui.
Si j'avais une garantie de gagner la Coupe d'Europe et de jouer la Ligue des Champions, je te garantis, j'aurais envoyé peut-être même l'équipe réserve. Quand on voit les jeunes, comment ils sont comportés hier, peut-être que je me serais dit, on va faire des résultats. Mais aujourd'hui, j'ai aucune garantie d'aller gagner la Coupe d'Europe et de jouer la Ligue des Champions.
32-16 supporters marseillais. Est-ce que l'OM doit tout miser sur la Coupe d'Europe ou, comme le dit Benatia, pas de compromis? Kevin, Lionel, est-ce qu'à votre avis, quand tu dis pas de compromis, bon, évidemment, finalement, c'est un beau discours. Tu étais obligé de le dire. Tu vas pas dire à Marseille, non, je vais délaisser le championnat. Mais en vrai,
t'es obligé de le faire. Ouais. T'es obligé de le faire aussi, tout simplement.
Mais pourquoi
t'es
obligé de le faire?
Bah parce que tu peux pas faire de compromis. Déjà tu vas jouer contre l'Atalanta. Ça va déjà être très compliqué. L'Atalanta a un autre effectif que celui actuellement, que celui de l'OM. Ça c'est la première chose. Ensuite, à trop vouloir bien faire, et tu peux te retrouver à être éliminé, même au pénalty. On ne sait pas si ça se passe très très bien. Admettons, tu peux te retrouver être éliminé contre l'Atalanta, qui normalement en fin de saison est, comme je viens de le dire, beaucoup plus armé pour aller au bout du bout. Et donc, si t'es éliminé contre l'Atalanta, que t'as laissé le championnat, là, tu perds tout. Non, puis quand t'es à l'OM, moi, je suis d'accord avec Mehdi, quand t'es à l'OM, tu peux pas. Là, cet effectif-là...
Oui, mais ça, c'est OK pour le discours, je suis d'accord.
Non, c'est aussi dans les faits.
Mais non, mais quand tu regardes l'effectif... L'effectif de l'OM. Mais
tu mets l'équipe réserve.
Sans exagérer. Moi, je suis d'accord avec ce qu'est en train de sous-entendre Thibaut. Pour moi, l'OM doit faire all-in sur la Coupe d'Europe. Quand je dis all-in, ça n'empêche pas d'aligner l'équipe en fonction des présents la plus compétitive possible en Ligue 1. Je te dis pas, comme a dit Mehdi Benassia, en exagérant un peu, même si je vois ce qu'il veut dire.
Ça veut dire que tu joues les matchs, mais pas à fond.
Non, c'est pas... Mais par exemple, Mbemba, qui est blessé, s'il doit reprendre un match... Il faut que ce soit le match de Coupe d'Europe. Ça sert à rien qu'ils reprennent 7 jours ou 3 jours avant.
Qui doivent revenir. C'est-à-dire les clauses et compagnie.
Peu importe tous les joueurs qui sont blessés, s'il n'y a aucun risque à prendre pour un match de Ligue 1. Le seul risque où on pourra éventuellement penser à prendre, ce sera pour les matchs de Coupe d'Europe. Parce que certes, c'est l'Atalanta, certes, Marseille est loin d'être le favori.
Donc les clauses et compagnie qui sont blessés actuellement... ne font pas de match de rentrée, vont directement faire un match contre l'Atalanta.
Non, c'est parce que je dis, bien sûr, tu peux jouer 25 minutes en fonction de ta blessure, en fonction de l'avis du staff médical. Mais pour moi, s'il y a un match pour lequel tu dois être prêt, c'est pas le prochain match de Ligue 1, ni celui suivant, ce sera se préparer pour être en forme optimale pour les deux matchs les plus importants de la saison de l'OM, qui sont l'aller-retour contre l'Atalanta.
Moi, préparer, oui, sur ce que tu dis. Maintenant, tous les matchs, quand t'es à l'OM, tu dois les jouer quand t'es à l'OM.
Quand il y a des blessés, tu vas devoir faire des choix peut-être.
Bah écoute, là, il y a pas beaucoup de choix.
Bah si, mais il y a pas
beaucoup de choix. Regarde, il est en train de faire rentrer des gamins de 17 ans.
C'est bien ce que je te dis.
C'est compliqué. C'est un vrai casse-tête pour rentrer dans un exemple.
Plutôt que de faire jouer, par exemple, il va y avoir 3 matchs dans une semaine, plusieurs fois là pour Marseille.
Ouais. Et oui, on en parlera dans un instant.
Donc il va y avoir 2 fois 3 matchs dans une semaine.
Ouais.
Bah je suis désolé. Plutôt que de prendre le risque. Non. Je dis que plutôt que de prendre le risque de faire enchaîner des matchs à des mecs qui reviennent de blessure, même si ça s'est bien passé par exemple le dimanche, ben le mercredi, je vais peut-être mettre un jeune. Pas forcément 5 jeunes, mais mettre 1-2 jeunes, peut-être à la place du joueur, Jonathan Clauss, ou tout à l'heure j'ai parlé d'Mbemba, qui pourrait.
Ou en Veretout, qu'on a vu vraiment rincer hier.
Là, vous faites sortir Veretout parce qu'il était rincé hier. Bah, vous enlevez Veretout du milieu de terrain et vous mettez.
Il va falloir faire des choix.
Vous remettez quelque chose d'autre. Voilà,
un Veretout, ça va être difficile pour moi, pour lui, d'enchaîner 3 matchs sur une semaine. Ça va être difficile. Parce que.
J'entends aussi
ton discours. Bien sûr qu'à l'OM, il faut jouer tous les matchs. Mais aujourd'hui, tu te rends compte, et c'est là où je voulais en venir dans mes 3 points. Mais l'aubaine pour l'Olympique de Marseille, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui étaient dans les 18 hier, quand même, de se qualifier, même face à un Benfica moribond, face à un Benfica qui n'est pas terrible cette saison, mais quand même, ils se qualifient pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc, les gars. Ils sont à 3 matchs de gagner une Coupe d'Europe. Ils sont à 3 matchs de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et à un moment, si tu ne dois pas mettre toutes les chances de ton côté sans manquer de respect au championnat, en essayant de finir de la meilleure des manières ce championnat qui, de toute façon, est cataclysmique ou est très difficile, alors qu'en Coupe d'Europe, c'est presque là où tu brilles le plus, en tout cas en Europa League.
C'est pas fini non plus pour l'Europe. Ils sont à combien
mais quelle Europe ?
Ils sont 9e.
Ah non, mais
à 4 points de la 6e place, qui est pour l'instant.
Peut-être la 7e.
Voilà, mais à l'heure où on parle, c'est la Ligue
Europa. Si tu termines 8e parce que t'as pas fait all-in, t'as fait all-in pour la Coupe d'Europe, tu termines 8e parce que t'as lâché en championnat et que le 7e est qualifié, et il y a de grandes chances que le 7e soit qualifié, t'as pas les boules.
Oui, mais
une Coupe d'Europe, c'est primordial pour l'OM.
Je réfléchis à l'inverse. Imagine, tu fais pas all-in sur la Coupe d'Europe et tu finis 7e. Tu te qualifies pour la Ligue Europa Conférence.
Ouais, c'est une ligue de merde.
Bah, c'est pas ce que je dis.
Non, mais t'es en demi. Ça vous embête, on est à notre niveau, l'OM. Si l'OM, avec cet effectif-là, garde cet effectif-là, vous les voulez en Champions League, non, rien à faire.
Non, mais t'es en demi quand même.
On a vu.
Là, t'es en demi de Coupe d'Europe. Oui. Donc, tu vas pas galvauder la prochaine Coupe d'Europe. Mais là, t'es déjà à une finale. Déjà, c'est extraordinaire. T'es à deux matchs d'une finale.
Moi, je pense que ça serait dommage. Moi,
j'entends que ce soit dommage, mais
le championnat de terminer 8e pendant que le 7e sera qualifié. Même la plus petite des coupes d'Europe, il faut la faire.
32-16 pour réagir, supporter marseillais. On avait Garenne qui est là. Bienvenue dans l'after.
Salut
Garen.
Tout le monde. Salut Younes. Salut Kevin.
Salut Garenne.
Bon Garenne.
Moi, je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Et déjà, je pense qu'on sera, comme le disait Kevin, je pense qu'on ne se rend pas compte avec le 11 qu'on finit hier. C'est juste incroyable. Quand on est en demi-finale d'Europa League. Franchement, des fois, le football, il est fou, en fait. Parce que hier, à aucun moment, en regardant le match, je me dis qu'on peut le faire, quoi, en fait. Et après, t'as ce but de Mombania qui marque avec une petite erreur du golf. Et après, ça va au péno. C'est fou, en fait. Après, Kevin, toi, tu connais un peu le football portugais. Bon, je disais un petit peu qu'apparemment, le Benfica était un peu un club en crise. Donc, bon, après, ça amoindrit pas la performance de l'OM. Hein, mais bon, je pense que. On a ce tirage un peu favorable avec Benfica.
Et du coup, Garen, quand tu vois tout ça, toi, t'as envie de faire tapis sur la Ligue Europa, plutôt comme Kevin, c'est-à-dire de tout faire pour avoir les meilleurs joueurs aux meilleures conditions. Ou à côté, tu te dis non, on doit jouer les deux, comme Benatia le dit, comme Lionel, c'est l'OM, il faut jouer les deux à fond.
Bah écoute, moi, je pense que l'effectif te laisse pas trop le choix, en fait, clairement. Et après, je pense que comme Kevin a raison, parce que le championnat, je pense que c'est décroché pour la Champions League, ça c'est sûr. L'Europa League, pourquoi pas, mais bon, Nice a gagné ce soir, ça va être compliqué. La Conference League, franchement, si on peut l'éviter, pourquoi pas, parce que faire des déplacements en septembre dans des pays un peu éloignés, ça, moi je trouve pas ça top. Donc je pense que tout jouer sur l'Europa League, il y a deux matchs à faire. En plus, je pense qu'on a un calendrier apparemment qui est favorable. Donc, je pense qu'on va avoir des matchs un peu déplacés. Ouais, je pense qu'il faut jouer l'Europa League à fond. Et après, tout se jouera à Dublin sur un match. Contre le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso.
Ouais, attention à la S-Rom de Rossi. Aussi.
Ouais, je crois qu'on les a joués. On les a joués en amical cet été, il me semble. Et je crois que c'est cet été qu'on les joue en amical. Je sais pas si vous avez la stat. On les joue au Vélodrome en amical cet été.
Oui, vous perdez d'ailleurs.
On perd 2-0 et depuis ils sont vaincus. Et l'histoire serait belle si justement c'est nous qui les gagnons.
Je pensais à ça hier. L'histoire elle serait complètement dingue. Alors c'est très très loin d'être fait, hein, parce que l'Atalanta c'est très costaud, etc. Mais imagine que le Bayer Leverkusen perd son seul match.
Incroyable.
Sur un but de Fares Mumbaga et de l'OM de Longoria des années. Quoi. Le truc complètement dingue. Quoi.
Justement, les gars, dans un instant, l'avis tranché de Lionel concerne Fares Mumbaga.
Ça s'appelle une passe décisive. Ça,
exactement.
Si je peux juste.
Vas-y, justement, Garen. Ouais.
Sur ce joueur-là, bon, mis à part son but, franchement, je sais que Daniel n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que techniquement. Alors, je me pose la question avec les collègues hier, si tu le mets en DH ou aller en CFA2, est-ce que tu te dis que ce gars-là est un joueur de Ligue 1? Non, mais franchement, hein, techniquement, je parle. Hein.
Voilà. Parfois, le silence est une réponse, je pense. Garen, merci d'avoir été là en tout cas.
Merci à vous, les gars.
Bonne soirée à toi et à très bientôt.
C'est ce que vient de dire Garen. Ça me permet de. Parce que depuis hier, j'ai échangé avec Walid et puis il y a aussi des afteriens qui ont souri avec ça sur les réseaux sociaux. Sur Balerdi. J'avais dit il y a 3 ans, je crois, à l'époque, que Balerdi, si on le voyait sur un match de Marseille-Consola qui était à l'époque en national. Je suis pas sûr qu'il aurait vraiment été recruté, mais quant à le CV, j'avais expliqué de façon très précise, quand sur ton CV, tu as été à Boca Junior, puis tu as été recruté très jeune après 3 matchs professionnels par le Borussia Dortmund, forcément, tu as des opportunités dans ta carrière qui sont dingues. Et donc, arriver à l'OM, et ce n'est pas parce que, à l'époque de Doria aussi, c'est pas parce que tu es à l'OM, peu importe ton parcours, que tu as le niveau d'être à l'OM. Et ça, ça peut valoir pour Mombania aussi. Mais par contre, ensuite, il faut progresser.
Il a été bon, Balerdi, non ?
Et ce que fait Balerdi, c'est qu'il arrive à progresser. Enfin, depuis le début de saison, il ressemble à un joueur de haut niveau.
Il a fait un bon match hier.
Il a été excellent.
Il a été bon,
il
n'y
a aucun problème à dire qu'il a été excellent quand il l'est. Bon, mais ça, c'est-à-dire qu'il faut progresser. Mbagna, il faut progresser. Amin Harit, il faut progresser. Il y a pas mal de joueurs dans ces. Correa, je pense qu'il ne peut pas progresser.
Non,
mais tu as compris.
Dans un instant, justement, Mbagna, c'est la vie tranchée de Lionel, qui, je crois, Lionel, vous nous expliquez, stat à l'appui, que Mbagna est utile à l'Olympique de Marseille. 32-16, mes Marseillais, si vous voulez écouter, réagir à la vie tranchée de Lionel. Et puis, la Ligue qui reporte les matchs de Marseille et du Paris Saint-Germain, les matchs de Ligue 1, entre l'aller et le retour de Coupe d'Europe. Est-ce que la LFP a raison de bousculer son calendrier pour favoriser nos clubs français? C'est à suivre avec vous tous, hein, au 32-16 sur RMC, dans l'After, avec Lionel Charbonnier, avec Kevin Diaz. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, merci d'avoir choisi RMC. Vous écoutez la première radio de France. Merci encore. Les résultats d'audience sont tombés cette semaine. C'est un plaisir de passer cette soirée en vos compagnies et savoir que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Vous êtes nombreux également sur YouTube, la chaîne vidéo de l'After, où vous pouvez commenter. Sachez qu'on est en direct tous les soirs jusqu'à minuit pour parler foot et que dans quelques minutes, je vous donnerai le meilleur de l'actu du jour. On débattra également de la Ligue et je vous donnerai le calendrier qui a reporté les matchs de l'OM et du Paris Saint-Germain, les matchs entre l'aller-retour de la Coupe d'Europe. 32-16, est-ce que la Ligue a raison de faire ça? Mais d'abord, on conclut sur l'Olympique de Marseille et Faris Mbagna qui a inspiré à Lionel un avis tranché.
Il y a eu une vraie évolution par rapport à tout ça et que maintenant le quidam des mortels peut y aller, il n'y a pas de souci. Ça
fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, celui-là, il est mignon.
Je ne savais pas que j'avais dit ça.
Faris Mbagna, Lionel, peut être utile à l'Olympique de Marseille.
Oui, alors je ne suis pas en train de parler des statistiques. Et c'est justement là-dessus que je veux bien mettre l'accent. Je ne parle pas des statistiques personnelles du joueur. Elles sont horribles. Il n'y a pas de souci. Oui, tout le monde rigole lorsqu'on le voit, Mbagna, faire une pseudo-conduite de balle, se mettre les pieds dans le tapis, s'en mêler. Je ne parle pas des stats personnelles. Mais par contre, tout le monde a rigolé. Même les Marseillais rigolent de lui. Par contre, hier, moi, j'ai vu, je me suis posé la question. Et c'est pas qu'hier, parce qu'une fois dans un after, au match aller, notamment avec Daniel, j'avais dit, attention, Mbagna, il est très utile à Aubameyang, par exemple. Et donc, ce mec-là, il ne faut pas regarder ce mec-là avec ses stats personnels. Il faut simplement le regarder et regarder les stats collectives à partir du moment, les stats collectives, je parle, à partir du moment où il rentre. Et hier, à la 59e minute, les stats collectives, elles ont été complètement bouleversées à partir du moment où il est rentré.
Et dans le positif.
Mais dans le positif, bien évidemment. Il y avait 0-0, il y a eu 1-0, ouais. Tout d'un coup.
Et alors, c'est quoi,
c'est lui qui marque le but. Ensuite, les stats collectifs, si tu veux, je vais le faire très vite. Les duels gagnés jusqu'à la 59e minute, les duels gagnés par l'équipe, par l'OM, 33,3% de duels gagnés. À partir de la 69e, au moment où il rentre, 61%, on a doublé. Dont 50% des duels aériens ont eu lieu... 50% des duels aériens ont lieu au lieu de 29,9, 30%. C'est-à-dire que tu passes d'un tiers à la moitié dans les aériens. Tout simplement pourquoi? Parce que Mbagna, de par son activité défensive, est allé presser les joueurs. Il est allé emmerder la défense
de Benfica.
Il est allé là où ils essayaient, Benfica, de jouer, franchement, de ressortir proprement. Ils n'ont pas pu. Ils se sont fait rentrer dedans, par un pitbull qui les a laminés. L'entraîneur lui-même a déclaré, à partir du moment où Mbagna, c'est l'entraîneur de Benfica qui a dit, à partir du moment où Mbagna est rentré, ça a changé tout l'impact physique de toute l'équipe de l'OM. C'est pas moi qui le dis. Il y en a un autre qui dit ça. Et ça, c'est je remercie Flo Germain, qui est allé aussi faire parler et interroger Aubameyang par rapport à ça. Donc, il a parlé de l'entrée de Mumbanya à l'entraîneur de Benfica. Des joueurs de Benfica, les arrières, ont dit, à partir du moment où il est rentré, il nous a complètement mis la tête à l'envers. On est passé à travers. Il y avait trop de pressing, trop d'impact physique. Et Aubameyang qui dit, mais moi, c'est mon pendant. Je suis libéré quand il y a Mumbanya. À partir du moment où Aubameyang, quand est-ce qu'il a été étincelant, Aubameyang? À partir du moment où Mumbanya est rentré, il a commencé à avoir une aisance technique, une facilité aussi, libéré de certaines tâches défensives qu'il faisait seul. Je parle notamment sur le pressing haut. À partir de ce moment-là, Aubameyang a été étincelant. Il a tenté des gestes techniques qu'il n'avait jamais tenté jusque-là. Donc oui, ok, il n'y a pas de souci. Les stats individuelles, elles sont dégueulasses. Mais je voudrais aussi parler des stats individuelles. Des gens qui disent « Oh, Mumbanya, il a des stats individuelles dégueulasses !» Ouais, ok. Et j'entends ces mêmes gens, ces mêmes personnes qui disent « Attendez, les stats individuelles, il y en a marre. Il y en a marre. Les Messi, les Mbappé, les Neymar, je vous en passe, c'est des meilleurs, qui jouent que pour se faire des stats individuelles, on n'en peut plus. » Et ben là, on a un joueur qui joue, qui rend son équipe encore meilleure, mais par contre, on n'en peut plus parce qu'il est tellement mauvais. Mais il y a des mecs, il y a un mec qui me vient comme ça, toute proportion gardée, il n'était pas Marseillais, il était Parisien, il s'appelle Choupo-Moting. Il avait des stats individuelles dégueulasses. Tout le monde rigolait au PSG quand il rentrait. Oh, lui, il avait des surnoms et tout ça. Il avait tellement des stats individuelles dégueulasses que le moins bon club du monde, on se demande pourquoi ils l'ont pris, le Bayern Munich. Mais pourquoi le Bayern Munich a pris Aubameyang? Mais tout simplement,
Choupo-Moting.
Choupo-Moting.
Ils ont fait des
erreurs. Tout simplement parce que Choupo-Moting avait des stats dégueulasses. Ses stats étaient tellement dégueulasses qu'ils bonifiaient personne à côté. Oui, non, et comme sûr. Par hasard, bon et ben depuis Choupo-Moting, il a marqué. Ben même contre le PSG, il a marqué. Il a bonifié. Il a même marqué des buts pour le Bayern. Et si le Bayern de Munich, okay. A pris ce joueur-là, c'est pas parce que ses stats individuelles étaient bonnes, c'est parce que il bonifie aussi les arrières et les milieux de terrain.
Pareil pour Bounassa.
On parle de Choupo-Moting.
Oui, oui. Ouais,
parle de Choupo-Moting. Après, tu peux changer tout.
Oui, mais
surtout qu'on arrête de dire. Moi, ce qui m'énerve, Kevin, c'est que on en a marre des mecs qui jouent pour leur stat individuel.
Après, il n'y a pas que la stat quand même. Juste, pardon, je me permets, mais Mumbanya, il n'y a pas que la stat.
Je suis en train de te dire, je ne veux plus entendre parler ces mêmes gens qui tapent, ces mêmes personnes aujourd'hui qui tapent sur Mumbanya parce qu'il est nul, soi-disant. Je suis d'accord. Il est nul. Mais par contre, il bonifie. J'ai toutes les stats. Oui. Les coups francs tenus dans la zone de vérité, 70% à partir du moment où il est rentré. 70%.
Après il n'est pas seul à les obtenir. Mais en tout cas, j'entends.
Il a obtenu 70% des coups francs.
Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant comme analyse statistique parce que c'est vrai que les statistiques, on leur en fait dire ce qu'on veut. Mais c'est très juste de dire que.
Juste
c'est,
Kevin, c'est, les stats, c'est... je les sors.
Attends,
pas, c'est pas
Kevin,
moi. Ouais. Non, juste pour remercier aussi ceux qui ont bossé avec moi. Les stats, elles ressortent du staff de l'équipe de France. Tous ceux qui sortent les stats, c'est pas des statisticiens comme ça. Ouais, c'est des mecs qui sont champions du monde, champions d'Europe et tout ça.
Kevin. C'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est facile de dire que Mumbanya, c'est pas un joueur très technique. Alors toi, tu as parlé de Choupo-Moting. Moi, quand tu parlais, je parlais d'un autre grand avant-centre marseillais, grand. Plutôt par l'envie et par l'image qu'il a restée plutôt que par sa technique, et pourtant c'était un Brésilien. Vous voyez de qui je veux parler ou pas?
Attends, quelle époque?
Bah là, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années.
Brandao?
Voilà.
Brandao,
c'était la même chose. C'était un attaquant qui n'était pas très beau à voir jouer, mais par contre qui faisait assez mal aux défenses.
Ça fait mal.
Qui était capable de faire une passe du dos un peu sans faire exprès pour Valbuena à une qualification à l'Inter, je crois.
Mais c'est des joueurs sans ballon, tout. Enfin,
oui, mais ils sont bons.
Le football, c'est du jeu sans ballon.
Et qui sera plus parlant, surtout pour Thibaut, parce que je pense que c'est un gars que t'as apprécié, mais c'est Edinson Cavani. Souvent on lui a reproché sa technique, bien mais évidemment. C'était un mec déjà qui était bien meilleur buteur, bien sûr.
Oui.
Il jouait à un bien meilleur niveau aussi, donc il jouait dans une bien meilleure équipe. Voilà, il jouait pour la Ligue des Champions, etc. Là, on parle d'Europa League, on parle de Ligue 1.
Du travail collectif, l'intelligence collective pour les milieux et les arrières.
pour une équipe, c'est vrai que c'est aussi important. Il n'y a pas que des grands joueurs à ce poste-là, même si quand même, quand tu es à l'Olympique de Marseille, qu'il y ait des joueurs qui travaillent, c'est très bien, mais on attend quand même une petite
touche technique. Tu peux avoir mieux, je suis d'accord,
mais un peu plus
dans la précipitation, je suis d'accord, dans la précipitation, peut-être que, voilà, ils n'ont pas trouvé ça. Mais il faut arrêter de dire que de prendre en compte les stats individuelles.
Oui, non,
parce que moi, j'ai les stats collectives et ça a complètement bouleversé le jeu. Et franchement, l'entraîneur de...
Surtout face au Benfica, qui est une équipe... Tu parlais de l'entraîneur de Benfica et des défenseurs. Les joueurs de Benfica, je les connais très bien parce que je les suis souvent. Et d'ailleurs,
ils n'aiment pas ça, l'impact physique.
Voilà, hein. Au Portugal, quand il y a un attaquant costaud comme ça, comme Gyökeres, par exemple, l'attaquant le suédois de Sporting qui se régale cette année, c'est vrai que c'est un championnat où notamment les petits jeunes là, qui sont dans la défense de Benfica, ou Otamendi qui est un ancien, très ancien, mais c'était le cas aussi de Luisao, même de Pep, etc., qui sont quand même soit en fin de carrière, soit en tout début de carrière au Portugal, ils ont souvent des difficultés face à des attaquants puissants.
23h44, espérons que l'avenir te donne raison, notamment les matchs face à l'Atalanta Bergame.
De toute façon, hier il y a eu qualif et les stats elles sont là.
23h45, dans un instant, avis également de Kevin sur un autre joueur qu'on a vu cette semaine en Coupe d'Europe, Dibou Martinez. Et puis la Ligue qui reporte les matchs de Marseille et de Paris après ses qualifs européennes, les matchs de Ligue 1 entre les deux matchs de Coupe d'Europe. Est-ce que la Ligue a raison de bousculer son calendrier? Certains entraîneurs ne sont pas d'accord. On vous attend au 32-16 si vous voulez réagir. L'after est là en direct jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Et merci d'être avec nous en direct jusqu'à minuit. Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, bon début de week-end, bonne fin de vacances. On est un peu sur un chassé croisé en tout cas. Merci d'être là. Dans quelques minutes, l'avis tranché de Kevin concernant Dibou Martinez. Hâte ou pas d'entendre ça. Mais d'abord, pour conclure cette semaine européenne, conséquence de ces bonnes performances, de ces excellentes performances, le calendrier de la Ligue 1 est chamboulé. La LFP annonce ce soir le report des matchs de l'OM et du PSG prévus entre les deux matchs de Coupe d'Europe. Au lieu d'avoir le week-end du 4 mai, Reims-Marseille et Nice-PSG, ils auront lieu 10 jours plus tard, le mercredi 15 mai. Ce sera entre les deux dernières journées de Ligue 1. C'est pas tout, accrochez-vous, concentration. Comme Reims et Nice sont impactés par ces aménagements, les adversaires, la Ligue a aussi décidé d'avancer leur match de l'avant-dernière journée. Donc Brest, Reims et Nice, Le Havre auront lieu le vendredi 10 mai et non le dimanche 12 mai où il y aura le multiplex pour leur permettre d'avoir un peu de temps avant de jouer ces matchs reportés. La LFP a-t-elle raison de bousculer son calendrier pour favoriser le parcours des clubs français en Coupe d'Europe? On vous attend au 32-16 si vous voulez en débattre. Je voudrais qu'on écoute Éric Roy. Beaucoup d'entraîneurs ont été questionnés sur cet aménagement aujourd'hui en conférence de presse. Certains comme Adi Hütter sont favorables, certains sont mitigés comme Pierre Sage. Vous retrouvez toutes les réactions sur rmcsport.fr. Éric Roy, lui, n'est pas chaud.
Juste, pas juste, j'en sais rien. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en France, qu'on fasse ça, quoi. On est toujours un petit peu, je sais pas, différent des autres, peut-être, je sais pas. Mais bon, je vois que les Anglais, ils jouent, les Espagnols, ils jouent, les Allemands, ils jouent. Ils jouent les Coupes d'Europe. À partir du moment où t'es qualifié pour une Coupe d'Europe, tu prépares ta saison aussi par rapport à un calendrier. Surtout qu'en France, on nous a vendu le fait de réduire le championnat à 18 clubs pour avoir moins de matchs. Et donc, peut-être, du coup, être plus performant, nous enlever une Coupe nationale aussi dans cet objectif-là. Donc, on a fait tout ça et on aménage encore les choses. Donc, bon.
Éric Roy, micro de Xavier Grimaud. Lionel, Kevin, Ligue a raison.
Alors, encore une fois, les amis, je comprends que les entraîneurs défendent leur paroisse. Il n'y a pas de souci. Ils défendent leur club, ils défendent leur équipe et leurs résultats. Je peux l'entendre. Par contre, on a trois clubs en quart de finale de Coupe d'Europe. Il y en a deux qui passent et l'autre qui va au pénalty. Et qui sont à deux doigts de passer, qui roulent sur Aston Villa, qui est un des meilleurs clubs anglais sur les 10 derniers mois. Les mecs, ils n'ont pas joué le week-end dernier, et la Ligue, ils ne vont pas essayer de faire la même chose le week-end prochain pour deux demi-finales de Coupe d'Europe. Mais à un moment, on ne peut pas reprocher tout et son contraire aux gens.
Non, mais déjà, pour le coup, ça avait été déjà reproché par certains en quart de finale.
Ça a été reproché la première fois, mais là, on est en demi maintenant. Il y a 2-3 en demi, il a failli avoir 3-3 à un pénalty près. Donc ça veut dire qu'on peut considérer que ça a fonctionné. On ne va pas reprocher à la Ligue de le refaire. Et je réponds à Éric Roy, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui a travaillé avec nous sur RMC Sport, mais je réponds à tous ceux qui ont dit ça. Arrêtons de dire qu'on est les seuls à le faire, c'est pas vrai. Il y a d'autres pays qui le font aussi.
Les Pays-Bas le font,
Pays-Bas,
par exemple.
En Hollande, ils le font. Hein.
Ils le font aussi, c'est des petits championnats. On a une demi-finale tous les 10 ans, quasiment. On n'est pas non plus liés. C'est normal, l'Angleterre, ils ne le font pas. L'Espagne, ils ne le font pas. Tous les ans, ils ont deux demi-finalistes.
Ah, puis ils ont un autre effectif, ils ont des autres budgets, ils ont d'autres subventions. Il y a tout ça.
Je comprends la frustration, mais il y a un moment, on peut pas râler de tout.
Et aujourd'hui, franchement, moi, bravo à la Ligue de protéger ceux qui font bien le boulot. Et sûrement que Éric Roy un jour sera très content aussi que l'indice UEFA français augmente pour donner des places pour des clubs qui seront peut-être contents quand le 7e, le 8e seront qualifiés directement.
Alors bien faire le boulot, c'est un peu l'argument justement de ceux qui sont contre cette programmation, parce qu'ils disent ces clubs-là, ils disputaient ces compétitions, ils savaient au début de la saison, s'ils espéraient briller, c'était à eux de construire un effectif, de s'organiser pour pouvoir être compétitif.
Il faut l'avoir le budget pour construire l'effectif, pour rivaliser contre
Aston Villa,
Real Madrid, qui tu veux, enfin tous les prends. Regarde, même aujourd'hui, l'OM est en dessous de ces clubs-là. On est bien en dessous.
En termes d'effectifs.
Donc je comprends pas. Moi, tu travailles bien, qu'on te protège quand tu travailles bien, c'est tout à fait normal. Et tu travailles pas. Ces clubs-là ne travaillent pas que pour la gloriole du club. Ils ramènent des points encore, j'insiste, sur l'indice UEFA. Et que quand tu seras qualifié, parce que toi, tu as un budget inférieur, tu seras peut-être content si un jour tu es en quart de finale, qu'on te protège parce que tu n'auras pas pu, justement, jouer contre le Real Madrid et que tu auras une semaine de repos pour battre le Real Madrid. Tu seras bien content aussi si un jour ça t'arrive.
Il faut arrêter de se comparer avec l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne, les amis. Hein.
L'Italie.
Il faut arrêter de se comparer avec ça. Il faut arrêter de dire ah oui mais eux ils font pas les Anglais. Non mais les Anglais les gars c'est pas la même division là. On va se comparer avec les Belges, on va se comparer avec les Portugais, et avec les Hollandais. Et après on verra si on peut se comparer peut-être dans 5 ans ou 10 ans si on continue d'avoir des bons résultats avec les autres.
Tiens je vais vous dire que dans le communiqué la Ligue écrit dans l'optique de favoriser le parcours des clubs français en Coupe d'Europe, considérant que l'amélioration de l'indice UEFA de la France demeure un objectif essentiel.
C'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire.
Il est 23h52. Vous êtes sur RMC. Vous retrouvez toutes les réactions sur rmcsport.fr. Et pour conclure donc sur cette semaine européenne, Dibu Martinez a sévi une nouvelle fois hier contre des Français, le gardien d'Aston Villa, et il a inspiré à Kevin un avis tranché.
Parlez de moi à la deuxième personne du pluriel.
C'était quoi ça ?
Je sais pas.
Vous ? Ok. Dibu Martinez ?
Ouais, Dibu Martinez, hier, moi je regardais le match, j'étais à la maison avec mon fils et honnêtement, moi j'adore les Lillois, j'étais vraiment déçu pour eux, mais quand j'ai vu le show Dibu Martinez, et on en a un petit peu parlé dans le C'était pas dans l'after, mais non, ce n'est pas un hasard, oui, les tirs au but, ça se travaille, oui, peu importe que tu es champion du monde ou vice-champion du monde, oui, tu dois travailler les tirs au but parce qu'il y a une routine à créer, et dès que j'ai vu Chevalier poser le ballon entre Dibu Martinez et le premier tireur lillois, qui était Ben Taleb, j'ai dit c'est mort, il va se jeter dessus. Ben ça a pas loupé, il a fait les 10 mètres en accélérant, Ben Taleb a essayé d'accélérer, il a touché le ballon, il l'a fait rebondir deux fois, ça y est, il est rentré dans sa tête. Donc en fait, il a été hué, il a pas demandé à être hué, il a rien dit contre le LOSC. Donc les supporters lillois l'ont hué.
Hué, par son passif avec l'équipe de France.
Ok, évidemment. Ils l'ont hué, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Mais on ne va pas reprocher à un joueur hué par 40 000 ou 50 000 personnes de répondre en disant chute quand il arrête un pénalty avec l'adrénaline que ça procure. Ou alors on ferme boutique, on veut que des trucs aseptisés et on n'aura plus de Gattuso, on n'aura plus de Roy Keane.
La petite danse aussi, tu valides ?
Mais bien sûr, la petite danse.
Mais il s'est fait chambrer tout le long du match.
C'est pas lui qui est arrivé. Imaginons qu'il n'y aurait pas eu un chambrage, pas eu un sifflet, et qu'il te sort sa petite danse parce qu'il est en France. Là, j'aurais pu dire, bon, c'est pas nécessaire. Mais le mec, il s'est fait provoquer lui-même d'abord. Et en plus, il répond sur le terrain, et derrière, il se qualifie, et il fait un petit chute et une petite danse. Et derrière, il a montré son maillot à la Léo Messi. Mais c'est de bonne guerre, les gars. Ou alors, il ne faut pas se moquer des Belges quand ils ont le seum. Il ne faut pas se moquer. Sergio Ramos, mais il était capable de te marcher dessus, de te mettre un coup de coude, de te déboîter l'épaule à Mossala. Mais tu crois, mais c'est ça le football. On est là pour gagner. Il y a 90 minutes, tous les moyens sont bons. Tant que tu ne prends pas ton carton rouge, il a failli prendre, il n'a pas pris.
Quand même, c'est bien aussi de gagner avec respect.
Tous les moyens sont bons. ce n'est pas un manque de respect. Le chambrage qui répond à un chambrage, ce n'est pas un manque de respect. Non, c'est aussi le football de caractère. Moi, c'est le football que j'aime.
J'entends ce que vous dites, mais moi, j'aurais un contre-avis tranché là-dessus. J'entends ce que tu dis, Kevin, et je suis assez d'accord. Mais je réclame et je demande le droit au seum. C'est-à-dire que, ok, tu peux accepter qu'il chambre.
Tu peux accepter
cette petite danse aussi, mais tu peux aussi accepter le seum que moi j'ai toujours après cette finale de la Coupe du Monde 2022.
Non, mais là,
et que les Lillois ont eu hier. Franchement, en fait, on peut comprendre les deux, mais
Non, mais attends, il y a des gens qui étaient catastrophés. Moi, les Lillois, je peux le comprendre, mais il y a des gens qui étaient catastrophés, ils sont même pas Lillois. Hein. C'était juste parce que c'est Dibu Martinez, l'Argentin, qui a éliminé.
Thibaut, t'as le seum pour un mec qui a eu après un match. Parce que ce que t'as quand t'as le seum, c'est sa célébration, son comportement avec ses gants comme ça, avec la Coupe du Monde. Mmh. C'est ça qui te fout le seum. Ouais.
C'est pas la Coupe du Monde, c'est le trophée de meilleur gardien.
Ouais.
Non, et après, sur le bus, il a refait avec Mbappé, il a mimé son comportement d'après.
C'est d'autres choses. Mais là, le comportement pendant un match, il se fait chambrer. Il répond au chambrage. Tu veux chambrer, tu veux que. Et d'autant plus que je ne suis pas certain. C'est pas que je ne suis pas certain. Je suis certain qu'un joueur comme ça, plus tu vas le chambrer, plus tu vas le mettre contre toi, plus il va se nourrir de cette hostilité et meilleur il va être.
Mais ne critiquons pas le seum des Lillois. Je vois Valérie qui écrit dans le chat. Qui écrit, vous êtes trop sensible. Oui, et alors je réclame également le droit à la
sensibilité. Non, mais attention, moi je critique pas. Je comprends la frustration des supporters lillois. Mais c'est pas grave. Mais il y a eu aussi des gens qui sont pas lillois et qui ont juste eu le seum de voir Martinez ou dire. Ouais, non.
Parce que c'est Martinez maintenant.
Non, il y a un moment. Moi j'adore ça. Je suis désolé. J'étais très déçu pour les Lillois. C'est une équipe que j'adore, un entraîneur que j'adore, un club qui travaille super bien. Mais de voir Martinez arrêter le pénalty et faire sa petite danse, je suis désolé, c'est aussi le football que j'aime. Et si j'avais été à sa place, j'aurais fait pareil. C'est clair.
C'est vrai que c'est embêtant. Quand tu vois ça, ça te... T'as envie de lui taper dessus.
Oui, mais c'est lui. C'est comme les parties à la PlayStation. Tu perds toi, le mec en face te met un but, il te fait une petite danse.
Voilà.
T'as envie de lui en mettre une. Juste pour conclure, il nous reste 30 secondes.
L'accepter.
Vous dire aujourd'hui que le Red Star est officiellement en Ligue 2. On a suivi le match ce soir sur
le Red Star, c'est à.
C'est à Bauer.
Voilà.
Le Red Star qui a perdu 2-0 contre Dijon, mais dans le même temps, Martigues n'a pas gagné. Donc le Red Star est officiellement promu en Ligue 2, première montée, donc pour nos officiels, pour nos championnats.
Ouais, félicitations quand même à toute l'équipe du Red Star, hein, que ce soit le président, bien sûr, le directeur sportif, l'entraîneur,
et Walid,
tous les supporters, Walid Escarcour. Vraiment bravo à eux parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel.
Et Walid, il a un mégaphone quand il est dans les tribunes, il a un truc, il arrange.
La voix qu'il a, il n'y a pas besoin de mégaphone. Hein. Non. Surtout pas, ne lui donnez
pas
ça.
Il n'est pas torse nu avec le truc là, le porte-voix.
Non, parce qu'il ne se met pas torse nu non plus. Merci les gars d'avoir été là. Lionel,
salut à tous.
Kevin,
salut
bonne
à tous.
Soirée. Merci à Toto, à Geoffrey en régie. Merci à Adrien au standard. Et merci surtout à vous d'être là, fidèles comme à chaque fois. À l'after, merci sur le chat. Merci ceux qui nous ont appelés, ceux qui ont simplement écouté. Un plaisir d'être avec vous. On se retrouve demain dès 20h30 pour la suite de cette 30e journée de Ligue 1. Il y aura notamment le derby Rennes-Nantes et Lens demain contre Clermont. Bonne nuit tout le monde, à demain. Ciao.
RMC, l'after foot.